Avant de lire le texte biblique, nous allons prier le Seigneur. Répands sur nous ta lumière, Dieu de vérité. Conduis nos pas vers toi. Révèle-nous le Fils bien-aimé, le Christ, car dans notre monde, sans lui, il n'est que ténèbres, mais avec lui, nous voyons. Nous voyons les autres, nous voyons Dieu, nous voyons notre avenir. Que ta parole soit lumineuse et réconfortante pour chacun de nous. Au nom du Seigneur. Amen. Nous vous avons remis à l'entrée un dépliant sur lequel il y a le texte de ce jour. Le ministre éthiopien, tiré des Actes des Apôtres. Je fais la lecture avec vous. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je ? Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Chers amis, notre crise économique dont on parle depuis déjà bien des années est devenue une crise spirituelle, une crise de sens de la vie. On ne comprend plus la vie. On a l'impression que la maison s'écroule. Et quand la maison s'écroule, nous voyons les fondations, et elles sont fragiles. C'est un appel du constructeur de la vie, Dieu, qui nous appelle à revenir à la Bible pour retrouver la paix de la vie, le sens de la vie. 1000 chemins se montrent à nous aujourd'hui. Je voudrais vous montrer dans toutes ces réunions du dimanche que Dieu conduit nos chemins vers sa paix, c'est-à-dire le bien-être, le pardon, la réconciliation. Voici l'histoire d'un ministre éthiopien, conduit par Dieu vers Jésus, avec des interventions de Dieu que certains appellent des petits miracles. On en a plein dans la vie. Peut-être que je dirais là des grands miracles. Certains disent la providence. Oui. Il vient d'Éthiopie, c'est un Africain. Est-ce un juif de naissance? Je ne crois pas. C'est plutôt un converti au judaïsme. Un Africain converti au judaïsme. Je dirais plutôt au Dieu vivant et vrai, révélé par Israël. Certainement que cet homme a été converti par des voyageurs juifs ou des gens de la diaspora qui, partout où ils étaient à l'époque, dans tout l'Orient, dans la Grèce et dans l'Italie, il y a toujours eu des relations entre ces pays, Éthiopie, Israël. Ce ministre m'étonne par sa foi ardente. Vous avez vu sur la carte le voyage qu'il a fait ? Je ne sais pas s'il y a des Éthiopiens parmi nous. Un voyage très long, pas en Airbus à l'époque, difficile, dangereux. Pour faire quoi ? Des affaires ? Non, prier. Offrir des sacrifices à Dieu. Belle proie pour les brigands. C'est le responsable de tous les trésors de l'Éthiopie. Belle proie pour les brigands. Et je comprends mieux maintenant pourquoi la reine Candace lui a confié tous ses trésors. C'est un homme craignant Dieu, c'est un homme intègre, c'est un homme fiable, fidèle. On voudrait bien avoir des hommes politiques comme lui tous les jours. Il n'a pas peur de quitter son poste de ministre pour faire un pèlerinage, ce qui devait faire sourire la population quand même. Aujourd'hui, ça ferait éclater de rire la France. De toutes les façons, s'approcher du Christ nous expose toujours à la moquerie, surtout aujourd'hui. Mais dans la Bible, dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament, il était dit que les enfants d'Israël devaient se rendre 3 fois par an à Jérusalem pour adorer le Seigneur, à Pâques, Pentecôte et à la fête des tabernacles. Un voyage de plusieurs jours pour revivre les grands événements de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas par hasard quand même. Il vient à Jérusalem au moment où la ville vient de vivre le plus grand événement de son histoire. Jésus, quelques semaines avant, s'est présenté à Israël. Il est mort là, à Jérusalem. Il a été enseveli à Jérusalem et il est ressuscité à Jérusalem. Mais notre ministre ne le sait pas. Il est passé, ce ministre, dans les murs où Jésus est passé, où il a fait ses miracles. Il est allé au temple. Il aurait presque pu voir la croix où Jésus a été crucifié et le tombeau où on l'a déposé. Mais ces choses, de toutes les façons, sont muettes et ne peuvent pas changer la vie. Le ministre aurait pu entendre les disciples, les premiers chrétiens, chanter dans les rues ou au temple et parler de Jésus à chaque coin de rue. Mais tous les chrétiens de Jérusalem sont absents. Est-ce un grand week-end avec un beau temps ? Ils sont en exode. Ils sont partis, fuyant la persécution. Sont partis dans les campagnes de la Judée, de la Samarie, car après la mort du diacre Étienne, une persécution violente a déferlé sur les chrétiens de Jérusalem. Il n'y a pas de chance. J'ai l'impression que ce ministre qui vient à Jérusalem a raté un rendez-vous manqué. Il ne reste dans la ville que les apôtres et qui se cachent parce que un certain Saul de Tarse, futur apôtre Paul, respire la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus et les apôtres se cachent. Il ne reste plus qu'eux dans la ville. Alors le ministre éthiopien africain n'entendra pas l'étonnante prédication des apôtres. Ces pêcheurs de Galilée tout simples qui annoncent la nouvelle qui allait changer le monde, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Il n'entendra pas ça. Il n'entendra rien du tout. Je pense qu'il a passé à Jérusalem quelques jours et personne ne lui a parlé de Jésus mort et ressuscité. Il n'a peut-être même pas entendu une seule fois le nom de Jésus-Christ. Ou peut-être a-t-il entendu un fait divers sans importance. Un rabbi de Galilée là qui est passé. Bon. Nous aussi, nous pouvons, par les circonstances de la vie, passer à côté de Jésus, sans le connaître, sans le voir. Jésus s'est comparé lui-même à une semence, une graine. C'est petit, la graine. Et il faut le chercher dans ce monde immense. Comment le chercher dans ce monde, dans l'autre monde, une graine? C'est impossible. Mais c'est d'abord Dieu qui nous cherche. Dieu nous a cherché le premier. Dieu nous a aimé le premier. Dieu est à votre recherche. Mais pourquoi le nom de Jésus-Christ est-il absent de Jérusalem? Il ne sait rien sur Jésus. Je pense que le ministre éthiopien est allé au temple. Il a rencontré les chefs religieux qui étaient des ennemis mortels de Jésus et des premiers chrétiens et qui avaient fermé leur cœur à l'amour et à l'appel du Christ. Et je pense que ces chefs religieux, on ne leur jette pas la pierre, ils se sont bien gardés de dire une seule fois qui était Jésus de Nazareth à cet homme sérieux et sincère. Parce qu'ils avaient scellé la pierre de Jésus, la pierre du tombeau de Jésus. C'était une affaire terminée, close, affaire Jésus, terminée. Et ils continuaient de persécuter ses derniers défenseurs, pensant que l'affaire n'irait pas très loin. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux qu'ils n'entendent pas les pharisiens dire que Jésus était un démon, comme ils l'ont dit, du vivant de Jésus sur la terre. Qu'ils n'entendent pas les pharisiens dire que les disciples avaient volé le corps de Jésus et avaient raconté qu'il était ressuscité. Eh bien, il fallait peut-être mieux pas qu'ils entendent ça. Il faut mieux que la semence de l'évangile tombe dans un cœur vierge, propre, net. Parce qu'ils ont tué Étienne, demain ils tueront Jacques, l'apôtre. Tout homme qui craint Dieu et qui pratique ce qui est juste est agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Il n'a pas la connaissance totale du mystère de Dieu, mais par le fait qu'il fait ce qui est juste, il est agréable à Dieu. Et Dieu le cherche. Dieu veille sur cet homme-là. Car ce chercheur de Dieu a emporté avec lui le guide, le seul guide qui va le conduire vers le Christ. Et ça, c'est pas par hasard. Ce guide, c'est l'Écriture sainte, c'est la Bible. Il a dans les mains le livre du prophète Ésaïe, sorte de rouleau. Peut-être dans l'hébreu, la langue de l'origine, ou alors sa traduction en grec, les Septante. Un manuscrit qui aujourd'hui coûterait 1,5 million ou 2 millions d'euros. C'est déjà quelqu'un qui a un peu de moyens. On ne parlait pas d'euros à l'époque, mais C'est une recopie à la main, pas l'imprimerie. Il a dans sa main le chemin. Dieu a permis qu'il, s'il n'a pas entendu, il peut lire. Combien de gens ressemblent à cet homme dans le désert qui descend? Vous avez vu au début de l'histoire, il va sur un chemin qui descend. Combien de gens aujourd'hui sont prisonniers d'une société qui refuse le Christ? Ou parler de Dieu, de foi, c'est sortir d'une autre planète. Nous avons beaucoup de panneaux indicateurs partout. Mais lequel choisir? Lequel est le bon? Il y a 10 000 chemins. Mais où est la véritable espérance? Où est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Disait Pilate. Oui, mes amis, en voulant être moderne, adulte, comme disait le pasteur Bonnefer en Allemagne il y a longtemps, on a voulu être adulte et on a jeté nos repères chrétiens. Parce qu'il fallait changer. Mais la vie ne change pas. Toujours le temps de naître, on naîtra toujours de la même façon. Il y a le temps de mourir, on mourra toujours ainsi. Puis il y a le temps pour haïr, il y a beaucoup de temps pour haïr. Hein. Il y a le temps pour aimer, il y a le temps pour planter, le temps pour arracher, le temps pour faire la guerre, il y en a beaucoup, un peu trop, et le temps pour faire la paix. Il y aura toujours ces temps-là. L'être humain ne change pas. Il a besoin de repères qui ne changent pas. Le haut fonctionnaire de l'Éthiopie, surintendant de tous les trésors de la reine des Candaces, et sur son char, avec ses chevaux, et il lit le prophète Ésaïe à voix haute. C'était l'habitude des Juifs. En voyage, on lisait à voix haute. J'étais il n'y a pas longtemps dans le métro à côté d'un Juif et murmurait sa lecture. Je pouvais l'entendre, mais c'était de l'hébreu pour moi. Il ne comprend pas ce qu'il lit, mais il persiste à lire quand même. Peut-être en espérant qu'un jour il comprendra. En espérant qu'un jour quelqu'un va l'aider, le guider. Regardons bien cet homme persévérant, mes amis. Regardons bien cet homme qui lit avec acharnement la lettre de Dieu. Nous qui disons que la Bible est compliquée. Nous qui nous réfugions derrière ce slogan, c'est pas à notre portée, on n'y comprend rien. La Bible n'est pas un livre fermé. La voix de Dieu disait à saint Augustin, prends et lis, parce que tu peux lire. Le savant, en lisant la Bible, n'atteint pas les profondeurs de la Bible. L'enfant peut se promener dans les histoires de David, de Moïse, de Jésus, des apôtres. C'est un livre à la portée de tous. Il a été comparé à du pain, à du lait, à de l'eau. Il a trouvé sa place dans les familles nobles et les familles paysannes de la Réforme, mais dans d'autres catholiques aussi et partout. Il a été recopié à la main par des paysans chinois sous l'oppression de Mao il y a quelques années. Ce livre a été donné aux humains pour qu'ils le comprennent. Dieu ne joue pas à cache-cache. Jésus était suivi par des foules d'enfants, d'hommes, de femmes, parce que ses paroles étaient simples et parce qu'il disait de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Jésus dit, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Ses paroles étaient compréhensibles. Il lit le prophète Ésaïe. Avez-vous lu le prophète Ésaïe? Je vais même vous dire, c'est le chapitre 53. Voyez-vous ? Et voilà que sur ce chemin désertique, ce chemin qui descend vers Gaza, voilà qu'un diacre de la première église se promène, ou plutôt, il a une mission à accomplir. Sur le chemin qui descend, ce diacre, c'est Philippe, diacre de l'église de Jérusalem. Ce n'est pas par hasard. Quand Dieu fait quelque chose, il n'y a jamais de hasard. Dieu ne joue pas avec le hasard. Trop risqué. C'est un ange du Seigneur qui a parlé à Philippe, qui était dans la région de la Samarie, et qui a dit à Philippe, descends par ce chemin. Et quand il est descendu, il a vu un seul homme, le ministre éthiopien. L'ange n'a pas donné de précision à Philippe de faire son travail, à Philippe d'écouter et d'entrer en contact et d'annoncer ce qu'il a à dire. Et Philippe a vu le char et l'Éthiopien. Et quand il s'est approché, le Saint-Esprit a donné cette parole dans le cœur de Philippe. Approche-toi de ce char. Littéralement, colle à ce char. Colle à ce char. Vas-y. C'est un petit garçon ou une petite fille ? Écoutez bien, mes amis, mais un ange qui intervient, le Saint-Esprit qui intervient, les Écritures qui sont là, voilà ce que vivait la première Église. Voilà ce que l'Église de toujours doit vivre, doit savoir. Dieu n'a pas abandonné son Église. Dieu, le ciel, n'a pas abandonné l'Église et le monde. Ce sont les incrédules qui disent cela pour jeter l'opprobre et la honte sur un Dieu coupable et responsable des accidents de voiture et de toutes les souffrances du monde. J'écoute Dieu qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Philippe court vers le char. C'est un bon coureur. Parce que le char s'avance. C'est pas le TGV, mais enfin, ça avance quand même. Regardez l'humilité de Philippe, prédicateur des foules en Samarie, homme qui a eu des milliers de guérisons. Et là, il se déplace pour un homme dans le désert et qui n'est pas un vrai juif. Regardez l'humilité du ministre éthiopien qui accueille ce manant essoufflé en sueur dans son char. Regardez l'humilité de Dieu qui frappe à la porte de la vie de ce ministre pour lui proposer l'éternelle et magnifique nouvelle de Jésus. Regardez le courage de ce diacre Philippe, le courage quand il va aller vers le char, qu'il va dire « Comprends-tu ce que tu lis ?» Parce que il faut qu'il saisisse cet homme-là. Parce que cet homme-là, il ne le reverra plus jamais. Car cet homme qui traverse sa route, cet homme, il faut qu'il entende l'Évangile. Alors, dans la vie, l'occasion ne se présente pas toujours. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il a eu du courage de dire ça. J'aurais pas eu le courage de déranger le ministre des Finances de la France en lui disant « Comprenez-vous ce que vous lisez ? » Notez l'humilité de ce ministre des Finances qui dit « Mais comment je pourrais comprendre ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. » D'autres auraient dit « Jeune homme, occupez-vous de vos affaires, je sais lire, ça va. » « Je ne sais pas, » dit le ministre. Certains disent cela avec plutôt du mépris, de l'insouciance, ça m'intéresse pas, je sais pas. Mais je ne sais pas, ça veut dire aussi, j'ai besoin qu'on m'éclaire. J'ai besoin d'en savoir plus. parce que la vie, on ne la répète pas deux fois, mais une seule fois. Et des occasions de comprendre le sens de la vie, quand elle se présente, il faut la saisir. Le ministre n'a pas dit « je n'ai besoin de rien, je suis riche ». Lui qui est le surintendant de tous les trésors, il n'est pas possédé par l'argent. Il n'est pas possédé par la richesse. C'est une âme de pauvre. Il n'a pas dit une seule fois « mais sais-tu qui je suis ?» C'est une âme de pauvre. Le royaume des cieux est à lui. Être pauvre en esprit, ça ne veut pas dire perdre tous ses biens, mais se détacher de cœur pour entendre Dieu parler et pour dépendre de Dieu chaque jour. Dépendre de Dieu chaque jour. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. J'ai besoin de toi pour surmonter mon chagrin, mon deuil, ma peine, mon affliction. J'ai besoin de toi. Comment comprendre, dit le ministre, comme s'il avait hâte. Oui, certes, je reconnais qu'il y a dans la Bible des pages mystérieuses. Mais il y a un mystère chez Dieu, que Dieu ne livre pas aux scientifiques, aux mathématiciens, aux philosophes. Ce n'est pas le Dieu des philosophes, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la vérité. Certes, il y a des mystères dans la Bible. Mais les hommes de bonne volonté ont remarqué la clarté des Écritures, la lumière de la Bible, sur des sujets importants comme l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu, la présence de Dieu. C'est clair dans toutes les Écritures. Parce que dans la Bible, Dieu s'abaisse. Il parle notre pauvre langue. Il s'abaisse avec des mots compréhensibles. Il s'abaisse à notre lenteur, à notre lourdeur, à notre pesanteur. Et la Bible est traduite dans les langues du monde entier pour être à la portée de chacun. Ne vous interdisez pas de lire la Bible. Regardez avec persévérance ces belles pages qui vous sont adressées pour votre foi et votre salut. C'est votre guide. Je reconnais qu'en expliquant, en interprétant la Bible, il y a eu des extravagances. Il y a des gens qui ont mal compris, qui ont donné des erreurs. La Bible n'a pas d'erreur. Elle ne se trompe pas, elle ne nous trompe pas. Mais des hommes ont abusé, ont extravagué. C'est vrai, je le reconnais. Ils ont même été source de peine et de conflits dans les églises. Mais de l'autre côté de la balance, si je mettais tous les progrès que la Bible a fait faire, toutes les libérations, toutes les guérisons, toutes les consolations, toutes les lumières, toutes les libertés, je peux vous dire, mes amis, que la Bible a apporté tellement plus de bien qu'elle n'a produit du mal parce qu'on l'aurait mal comprise. C'est le livre de Dieu pour le ministre et pour nous. Un roi de Jérusalem, il y a très longtemps, à l'époque, Jérusalem et le pays d'Israël étaient dans la décadence morale, décadence spirituelle. Et un roi de Jérusalem qui s'appelle Josias, c'est un homme brave, un homme bien. Mais il n'avait pas la Bible. Et un jour, en faisant des travaux dans le temple, voilà qu'ils ont trouvé dans les décombres le livre de Dieu, le livre de la loi. Seul exemplaire. Faut pas le perdre. Faut pas le mettre non plus dans un musée. Faut le mettre devant les hommes. Et Josias, il a trouvé ce livre et On lui a lu le livre et sa vie a été bouleversée et son pays, Jérusalem, ont été transformés par l'écoute, la lecture de ce livre perdu, oublié. Philippe, le diacre, homme tout simple, avait la clé de la Bible. Ne me regardez pas trop, mais j'ai la clé de la Bible. Et je peux vous dire que vous l'avez, elle n'est pas loin de vous, la clé. Pour lire la Bible, il faut comprendre une chose. C'est que la Bible parle de Jésus. Elle nous amène à Jésus. Pascal disait, l'Ancien Testament voit Jésus de dos. Et le Nouveau Testament voit Jésus de face. Et tout parle de Jésus. Comment comprendre, disait le ministre. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de qui il parle. J'aime ce ministre. J'aimerais avoir des contacts comme cela dans Rennes tous les jours. Parce que cet homme, il a renoncé à l'illusion des mérites. Il a renoncé à l'illusion de se croire grand devant les autres. Grand devant Dieu. Il aurait pu dire, j'ai des gens chez moi qui pourront m'aider parce que je suis capable. Il a renoncé à ces mérites qui font gonfler la poitrine de certaines personnes suffisantes. En disant, je ne sais pas, je ne comprends pas, il s'est déclaré mendiant de Dieu. Il s'est déclaré insuffisant. Il s'est déclaré pauvre, incomplet. Cette pauvreté qui permet de faire de la place pour accueillir la perle de grand prix. Dieu, Jésus. Si nos mains sont pleines, comment voulez-vous tenir même le moindre trésor? Il faut lâcher pour tenir la vérité. Alors il lit le prophète Ésaïe. Vous avez lu le prophète Ésaïe? Mais il lit un des chapitres les plus mystérieux, mais les plus lumineux. Il est parlé d'un serviteur souffrant qui fait de belles choses et qui ne récolte que des insultes, que des humiliations, que des blessures. C'est la honte. Et puis cet homme remarquable, exceptionnel, Dieu le destine à l'anéantissement. C'est incroyable. Et en étant anéanti, cet homme, là, de qui s'agit-il? Voilà qu'il va réconcilier les hommes avec Dieu. C'est inouï. C'est aberrant, c'est terrible, c'est incompréhensible. On voudrait un Dieu qui nous ressemble. Mais Dieu a des façons d'agir qui dépassent notre compréhension. De qui le prophète parle-t-il, dira le ministre. Je ne comprends pas cet homme bien qui subit des outrages et que Dieu se sert de lui pour pardonner nos fautes. Est-ce un martyr israélite, juif? Mais si c'est un martyr des temps passés, comment peut-il prendre sur lui nos péchés d'aujourd'hui? Si c'est un martyr depuis 1000 ans, comment peut-il prendre sur lui nos souffrances? Je ne comprends pas, dit Philippe, dit le ministre. Pour Philippe, qui a connu le Christ, tout est clair, tout est simple. Mais Philippe n'a pas dit au ministre, eh bien c'est Jésus. La Bible, mes amis, ne peut pas se résumer en un seul mot. Sans explication. La Bible ne peut pas se résumer simplement avec le mot Jésus. Qui est Jésus? Que fait-il? Il faut savoir qui est Jésus pour être sauvé. Il faut savoir ce qu'il a fait. Et Philippe lui raconte l'histoire de Jésus. Comment il a prêché, comment il a guéri, comment il allait de lieu en lieu pour soulager les opprimés, les pauvres. et comment il fut livré et abandonné de tous, et crucifié, et enseveli et ressuscité. Il lui a annoncé l'histoire de Jésus, l'Évangile. Toute la Bible conduit à Jésus. Mais il ne faut pas seulement savoir ces choses. C'est écrit dans les livres d'histoire. Il faut que l'Évangile s'intègre à notre vie quotidienne. Il faut que l'Évangile entre dans nos conflits, dans nos souffrances. C'est une vérité absolue. Oh, oh, je sais. Quand je dis vérité absolue, ça fait grincer des dents. Parce que des gens me disent, mais moi aussi j'ai une vérité. Plusieurs vérités, tout est relatif. Pour quiconque l'a connue, nous disons, c'est la vérité. C'est le chemin, la vie. Eh bien, sur le chemin de Gaza, aujourd'hui, pas très facile à vivre, hélas. Voici une histoire ignorée du monde, que les anges regardent avec attention, la conversion d'un homme à Jésus-Christ. Sans miracle, sans témoin, sans fanfare, mais avec un texte qui était là providentiel, le plus beau, ne pouvait pas faire mieux, entre les mains du ministre, le chapitre 53 du prophète Ésaïe. La conversion, c'est le plus grand événement de l'histoire humaine. Vous allez me dire que j'exagère. La conversion, c'est le passage de la puissance du mal à Jésus-Christ. Je pense que c'est le plus grand passage avant même la mort. La mort, c'est la continuité. C'est le petit pas qui continue. Mais le plus grand passage, c'est le passage du mal, du péché à Jésus-Christ. Eh bien, mes amis, les livres d'histoire ne parlent pas de ce grand événement humain. Les journaux ne retiennent rien, ils ne parlent que de batailles, d'exploits sportifs, de conflits, de drames. Mais le plus grand événement, c'est la conversion. D'ailleurs, l'Évangile ne parle même pas des Césars. Je ne parle pas du festival, je parle des empereurs romains. L'Évangile ne parle pas des empereurs romains. L'Évangile ne parle pas des Jeux olympiques qui étaient déjà à cette époque. L'Évangile ne parle pas des guerres romaines, de la politique, mais de l'histoire de quelques inconnus. Bartimée, Zachée, la Samaritaine, le ministre, quelques inconnus qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ. C'est la plus belle histoire du monde. Mais rien n'est fait d'avance. Philippe court après le char, monte dans le char, discute avec le ministre, mais rien n'est fait d'avance. On n'est pas programmé, on n'est pas manipulé, on est des gens responsables, on est des gens de cœur, on est des gens de raison, on est des gens avec lesquels Dieu fait affaire. Dieu frappe à la porte, il faut ouvrir. Et le ministre a ouvert. J'ai ouvert un jour. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Luther serait d'accord avec moi. Rien ne sauve ce ministre que sa foi. Vous avez remarqué? Il n'est pas question d'œuvre, il n'est pas question de prière, il n'est pas question de sa fidélité quand même assez grande, il n'est pas question de son amour pour la Bible, il n'est pas question de sa conversion au judaïsme, il n'est pas question de son renoncement à être un homme comme les autres, marié avec des enfants, il n'est pas question de rien. Seulement sa foi. Et permettez-moi de vous dire ce que Karl Barth disait bien aussi, ce qui nous sauve vraiment, c'est l'amour de Dieu, et c'est notre foi simplement. Crois seulement, et tu seras sauvé. Amen. et le ministre arrive à un petit plan d'eau. Il a dû entendre parler du baptême. Et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche? Ta position politique, ça pourrait te porter préjudice. Ta réputation pourrait être attaquée, mise sur écoute. Ta position brillante en Éthiopie, t'es vraiment le summum de l'Éthiopie. Le ministre dit non, rien ne me retient. La seule chose qui pourrait retenir le ministre, la seule chose, c'est de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu et ne pas recevoir dans sa vie ce serviteur souffrant Jésus. La foi, mes amis, c'est une certitude des choses qu'on ne voit pas. C'est l'apôtre qui le dit. La foi, c'est une connaissance du Christ. Et la foi, c'est d'abord une confiance totale. C'est-à-dire, on lui confie notre vie. On abandonne notre vie dans sa main. C'est une relation. La foi, c'est savoir et être en relation. Sans relation, la foi est morte. Si je sais qu'il y a un homme quelque part, à Pékin ou ailleurs, très bien, et si je suis pas avec lui en relation, ça ne me sert à rien. Voilà où nous conduit le Seigneur. Non pas à regarder la belle histoire du Rédempteur comme au cinéma, en attendant la fin, mais à contempler le Christ jusqu'à en être transformé. Car la Bible est claire, et l'expérience de milliards de chrétiens l'ont prouvé, à regarder vraiment le Christ, à entendre son enseignement, nous sommes transformés d'éclat en éclat, de progrès en progrès. Voilà, mes amis, pour ce premier dimanche de carême, une conversion complète, soudaine. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, conversion. La conversion, je dirais que c'est la paix avec Dieu. On fait la paix avec Dieu parce qu'on l'a offensé. Et la conversion, c'est la paix de Dieu en nous. La paix avec lui pour avoir la paix en nous. Je vous prie de bien faire attention. C'est pas une conversion morale. Quand on rectifie certaines choses dans sa vie seulement, c'est pas une conversion religieuse, il n'a pas changé de religion en disant j'étais dans le judaïsme, je passe dans le christianisme, c'est déjà beaucoup, mais enfin, c'est pas ça. C'est pas sa conscience qui lui dit que Dieu existe. La conversion, c'est un passage vers Jésus-Christ. En hébreu, conversion, ça veut dire retour. Retour vers Jésus. C'est passer de Satan à Dieu et c'est recevoir le pardon de nos péchés et l'héritage futur. Je vais conclure. Dieu de la vie, conduit-nous vers la paix. Jésus nous a dit, et c'est là ce qui rassure notre foi, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La fin du monde, ce ne sera pas simple, il sera avec nous quand même. C'est Jésus qui accompagne l'Éthiopien sur le chemin. C'est Jésus qui parle à son cœur. C'est Philippe, mais c'est Jésus. Comme Jésus parlait aux disciples d'Emmaüs, qui ne le reconnaissaient pas. Il parle au cœur. Il n'apparaît pas aux yeux, il apparaît au cœur. « Je me ferai connaître à lui, dit-il, si quelqu'un croit en moi. » Oui, nous ne voyons pas l'ange qui nous souffle des choses. Oui, nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Nous ne voyons pas Dieu qui est présent comme l'air à notre cœur. Ce Dieu discret, ce Dieu qui se cache, on a l'impression, hein. Nous voyons les circonstances, les aiguillages qui font que, un jour, on a été conduit vers le Christ. Je me suis retourné plusieurs fois dans ma vie et j'ai vu des aiguillages. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais voilà qu'à tel endroit, à tel moment, tel événement, j'étais conduit à droite ou à gauche jusqu'à Jésus-Christ. Et puis il y a le livre où chacun peut lire en sachant que Dieu s'adresse à lui personnellement. Mes amis, pour conclure, je voudrais vous dire que Dieu ne met pas un si grand salut dans les hasards de la vie, sur les flots du hasard. Dieu se déplace lui-même. Dieu nous cherche lui-même. Dieu frappe à notre porte lui-même. Dieu était là, je ne le savais pas. Nos chemins déserts qui descendent, vous en avez chez vous ? On en a tous, sont très fréquentés par le Seigneur. Couloirs d'hôpital, chemins des cimetières, chemins de marche solitaire pour cacher son cafard et sa tristesse, solitude dans les maisons, solitude dans les cœurs. Ces chemins sont fréquentés par le Seigneur. Nous ne sommes jamais trop loin pour qu'il nous parle. Notre découverte de Dieu, un jour on le découvre, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas un travail de chercheur qui cherche, de creuseur, d'archéologue. Ah, j'ai trouvé ! Eureka ! Non, c'est Dieu qui nous cherche. Jésus disait, mon Père agit. Jusqu'à présent, mon Père agit. Jésus disait, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, c'est que vous croyez. Il fait tout pour que vous croyiez. Il a plané vos sentiers. Il vous parle d'une manière, d'une autre. Oh, ce qui m'a fait drôle dans cette histoire, c'est que je suis pasteur. Je sais qu'il ne faut pas laisser les gens aller comme cela en n'étant pas assez renseignés. C'est que Philippe, il a laissé le ministre partir vers l'Éthiopie comme ça, tout seul, un nouveau-né dans la foi. À se perdre là-bas. Mais il a le Christ toujours avec lui. Et il a la parole toujours avec lui. Et cet homme est reparti tout joyeux. Vous savez que la joie n'est pas le contraire de la tristesse. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être triste. Allez, vous êtes joyeux, tout le monde rigole. Aujourd'hui, il y a une obligation d'être joyeux. Et c'est une des causes principales de suicide parmi les jeunes. Parce qu'il faut être joyeux. On ne peut pas exprimer ses chagrins et ses tristesses. La joie, c'est le contraire de la dureté de cœur. Un cœur dur qui rencontre le Christ devient un cœur joyeux. Pas parce que la vie tout à coup devient facile, mais parce qu'on n'est plus seul. Une joie profonde. Enfin, permettez-moi de vous dire, lisez la Bible. Sa lecture nous prépare comme la bonne terre de la parabole, prépare notre cœur comme une terre fertile. Dieu nous a créés pour marcher avec nous. Dans la Lozère, autrefois, il y avait des fortes tempêtes de neige. C'est un beau pays. Pas très habité, mais enfin. Dans le temps passé, au siècle dernier, il y avait des tempêtes de neige l'hiver, terribles, le soir. Les chemins n'étaient pas balisés, c'était que des chemins pour l'âne ou le piéton. Alors il y avait des gens qui avaient trouvé un moyen pour que les voyageurs ne se perdent pas. Il y avait une cloche dans les villages, et régulièrement on venait sonner la cloche. Pour que dans le blanc total ou le noir total, eh bien, les voyageurs puissent avoir une direction. Conduis-moi. Eh bien, Dieu de la vie, Dieu des océans et des mouvements de l'océan, Dieu des oiseaux migrateurs qui reviennent au nid, Dieu des hommes sur la route, dans la neige et la tourmente, conduis-nous vers la paix. Conduis-nous vers le Christ. Conduis-nous vers la beauté de l'Évangile. Notre temps le réclame. Merci Seigneur. Amen. Je prie le Seigneur avec vous. Merci de nous conduire. Tu nous prends par la main. Tu nous prends sur tes épaules comme un père porte son fils ou sa fille. Et tu nous conduis vers la maison du Père. Sans toi, nous ne pouvons pas partir. Sans toi, nous n'arriverons jamais. Mais tu as conduit le ministre vers la lumière du Christ et tu nous conduiras aussi. Bénis ce temps de Pâques. Bénis notre rencontre avec l'Écriture sainte, avec la prière, avec la fraternité, avec les autres, avec Dieu. Merci Seigneur. Amen.